Chapitre 4 Le trône Versets 1 à 11 Citation de l'Écriture. Après ces choses, je vis, et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette, parla avec moi, disant « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Sur le champ, je fus en esprit. Et voici, un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un qui était assis. Et celui qui était assis était à le voir semblable à une pierre de jaspe et de sardius, et autour du trône un arc-en-ciel à le voir semblable à une émeraude. Et autour du trône 24 trônes, et sur les trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres, et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu, et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et à l'entour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Et le premier animal est semblable à un lion. Et le second animal semblable à un veau, et le troisième animal à la face comme d'un homme, et le quatrième animal est semblable à un aigle volant. Et les 4 animaux, chacun d'eux ayant 6 ailes, sont tout autour et au-dedans pleins d'yeux. Et ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, et qui est, et qui vient. » Et quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Fin de citation. Au milieu de la ruine de l'Église quant à sa responsabilité et de la faillite de ceux qui ont cherché à répondre à la pensée du Seigneur en un jour de ruine, c'est un immense réconfort de voir une scène vers laquelle nous pouvons nous tourner par la foi, où nos affections peuvent librement s'épancher et où toutes nos associations sont pures et heureuses. Une telle scène est déroulée devant nous au chapitre 4 et 5. Rien ne pourrait être plus sombre ou plus triste que la dernière phase de l'Église professante décrite à la fin du chapitre 3. On y trouve ceux qui professent le nom de Christ sur la terre, se vantant de ses richesses, satisfaits de sa condition, étant non seulement indifférent à Christ, mais le rejetant vraiment, de sorte que Christ se trouve dehors. De même que la nation d'Israël a scellé son destin en rejetant son Messie, et que leur maison leur a été laissée déserte, ainsi, aujourd'hui, la chrétienté scelle son destin en rejetant Christ et sera bientôt vomie de sa bouche. Tel est le tableau solennel de la fin du chapitre 3, dont nous voyons aujourd'hui l'accomplissement se développer autour de nous. Dans un tel état de choses, quel soulagement pour le cœur de passer en esprit aux scènes dépeintes au chapitre 4 et 5. Au début du chapitre 4, nous quittons la terre qui a fermé sa porte à Christ pour trouver une porte ouverte dans le ciel à ceux qui appartiennent à Christ. Ce n'est pas très difficile de voir fermer les portes sur la terre si une porte nous est ouverte dans le ciel, avec l'invitation à y venir et à y entrer. En passant par cette porte, nous laissons derrière nous la scène où les hommes n'ont rien à faire de Christ, pour nous trouver dans une scène où Christ est tout en tous. Pour comprendre le livre de l'Apocalypse, nous devons nous souvenir de la triple division donnée par le Seigneur à Jean au chapitre 1, verset 19, où il dit à l'apôtre « Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Dans la vision de Christ, nous avons la première des visions, les choses que Jean avait vues. Dans les sept églises, présentant toute la période de l'Église, nous avons la deuxième division, les choses qui sont. À partir du chapitre 4, nous avons la troisième division, les choses qui doivent arriver après celle-ci, après la fin de l'histoire de l'Église sur la terre. Verset 1. Le premier verset de cette nouvelle section s'ouvre sur l'expression « après ces choses » et se termine par l'expression « les choses qui doivent arriver après celles-ci ». Il est donc clair que ces expressions parlent de la troisième division et nous amènent à la partie strictement prophétique du livre. Pour nous aider à comprendre ces prophéties, nous devons garder à l'esprit les grandes subdivisions de cette troisième partie de l'Apocalypse. Elles semblent être les suivantes. Premièrement, les chapitres 4 et 5 sont une introduction nous donnant une vision des choses dans le ciel afin que nous puissions connaître l'attitude de Dieu envers les événements qui vont se dérouler sur la terre et nous indiquant aussi la place des saints de cette époque et des époques antérieures lors de ces événements. Deuxièmement, du chapitre 6 au verset 18 du chapitre 11, nous avons une série d'événements se produisant successivement couvrant toute la période entre l'enlèvement de l'Église et l'apparition de Christ pour établir son royaume. Troisièmement, du verset 19 du chapitre 11 au verset 10 du chapitre 19, nous sont donnés des détails importants concernant les dirigeants et les événements de cette période. Quatrièmement, du verset 11 du chapitre 19 au verset 8 du chapitre 21, le cours des événements reprend à la suite du verset 18 du chapitre 11, et nous révèle l'avenir depuis l'apparition de Christ jusqu'à l'état éternel, en passant par le millénium. Cinquièmement, du verset 9 du chapitre 21 au verset 5 du chapitre 22, nous revenons au millénium pour apprendre plus de détails concernant les saints célestes par rapport à la terre pendant le règne millénaire. En revenant à la première subdivision, nous remarquons que le grand thème du chapitre 4 est le trône de Dieu, tandis que le chapitre 5 s'occupe du livre dans lequel tous ces événements sont relatés. Nous apprenons ainsi que derrière tout ce qui se passe sur la terre, le trône de Dieu domine et que chaque événement est selon les conseils que Dieu a établis. Quand l'Église professante corrompue aura fermé la porte à Christ sur la terre, on découvrira qu'il y a, dans le ciel, une porte ouverte par laquelle la vraie Église, comme Jean, pourra passer pour être avec Christ dans le ciel. Celui qui appelle Jean à monter de la terre au ciel est identifié à celui qui lui a déjà parlé des sept Églises. C'est le Seigneur lui-même. Ce sera la propre voix du Seigneur qui nous appellera à le rencontrer dans les airs. La perspective sous laquelle nous voyons les choses fera une grande différence quant à la façon de les voir. Nous sommes invités, tout comme Jean, à passer en esprit dans les scènes célestes et à voir tout ce qui doit encore se passer sur la terre du point de vue du ciel. Nous participons à l'appel céleste et nous devons voir ces événements à venir comme des hommes célestes. Si l'appel céleste de l'Église n'est pas connu, et que la position céleste n'est pas acceptée, nous n'aurons pas une juste interprétation de ces événements à venir, car nous serons occupés et distraits par les événements actuels dans le monde autour de nous. Versets 2 et 3. Le résultat immédiat de l'appel est que Jean fut en esprit. Comme Paul, lorsqu'il fut enlevé au troisième ciel, il n'était pas conscient du corps. Il était entièrement absorbé par les grandes visions et scènes du ciel. Il était là comme témoin, pour rendre témoignage à l'Église de tout ce qui lui était révélé. Paul, lorsqu'il fut emmené au paradis, entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. À Jean, il est dit au contraire, « Écris les choses que tu as vues, et ne scelle point les paroles de la prophétie. » Chapitre 1, verset 19 et chapitre 22, verset 10. La différence semble être que Paul voit les choses qui appartiennent au cercle intérieur de la maison du Père, alors que Jean nous conduit bien dans des scènes célestes et nous parle de choses célestes, mais il s'agit d'événements en relation avec la terre. C'est notre heureux privilège de profiter, par ce que Jean a écrit, des choses qu'il a vues et entendues. Ainsi, en esprit, nous pouvons entrer dans cette scène céleste et jouir des choses qui parlent de Christ. Dans toute cette grande scène, rien ne nourrit la chair ou nous détourne de Christ. La première chose que nous voyons est un trône. De plus, le trône est placé dans le ciel. Le trône est l'emblème du règne et de l'autorité, la garantie de l'ordre, de la bénédiction et de la sécurité de tout l'univers. La chute était en réalité un défi pour le trône. Le péché est une rébellion contre le trône. L'infidélité est la négation de l'existence du trône. L'orgueil aspire au trône. Et le diable défie le trône. Quelle bénédiction alors, après 6000 ans de rébellion contre le trône, de passer au ciel et de trouver le trône placé dans le ciel, ferme et inébranlable, de sorte que nous pouvons vraiment dire que dans ce passage, le grand thème est la gloire du trône de Dieu. Présentement, les cieux règnent, bien que de façon cachée. Notre grand souverain sacrificateur s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Et, de ce trône, il est toujours vivant pour intercéder pour les saints qui traversent ce monde. Hébreux 8, verset 1 et Hébreux 7, verset 25. Pour le croyant, le trône est un trône de grâce. Le jugement est sur le point de s'exécuter depuis le trône que voit Jean. Le mal abonde aujourd'hui. L'anarchie prévaut et le monde est de plus en plus marqué par la violence et la corruption. Et Dieu patiente pour donner aux hommes la possibilité de se repentir et faire connaître sa grâce. Mais la foi sait que, derrière, le trône de Dieu n'a pas changé dans le ciel. Être conscient que Dieu est derrière tout et que son trône est accessible aux saints avec toute sa grâce et toute sa puissance non affectée par le mal des hommes, garde l'âme dans le calme du ciel, tout en marchant au milieu de l'agitation de la terre. En outre, quelqu'un était assis sur le trône. Cette personne glorieuse n'est pas décrite, mais des pierres précieuses sont utilisées comme symbole pour décrire sa gloire. Nous devons nous souvenir que Dieu est vu en relation avec le trône. Ce n'est pas le cœur du Père révélé par le Fils qui était dans le sein du Père qui est devant nous, mais la gloire de Dieu vue en Christ sur un trône en rapport avec le gouvernement de l'univers. Les pierres précieuses symbolisent l'éclat de la gloire divine en gouvernement, lequel est vu dans le ciel, mais pas encore manifesté sur la terre. Sur la terre, nous voyons le mauvais gouvernement de l'homme et la longanimité de Dieu. Si l'éclat du trône avait été manifesté sur un monde pécheur, cela aurait signifié le jugement de tous. La vision nous transporte au-delà du jour de la grâce à un moment où, l'Église ayant été enlevée au ciel, l'éclat du trône brillera en jugement sur la terre. Puis Jean voit autour du trône un arc-en-ciel à le voir semblable à une émeraude. Genèse 9 nous apprend que l'arc-en-ciel parle de l'alliance éternelle entre Dieu et toute créature vivante sur la terre. Il parle de bénédiction terrestre assurée par la promesse divine, mais d'une bénédiction après le jugement. L'arc-en-ciel vient après la tempête, tout comme la promesse de bénédiction de Dieu vient après que le jugement du déluge est passé. L'arc-en-ciel qui entoure le trône est le signe certain qu'après le jugement des nations, il y aura une bénédiction pour la terre. Verset 4. Autour du trône, Jean voit 24 trônes et sur les trônes 24 anciens. Les anciens ne représentent pas des êtres angéliques. Cela ressort clairement du verset 11 du chapitre 5, où les anges sont décrits comme un groupe distinct, se tenant autour des anciens. Le nombre 24 semblerait faire allusion aux 24 classes de la sacrificature instituée par David pour les chefs ou chefs du lieu saint. À l'époque de David, il portait un caractère royal et sacerdotal, et représentait l'ensemble de la sacrificature. 1 Chronique 24, verset 5. Aujourd'hui, les saints ont le caractère de sacrificature royale pour annoncer les vertus de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. Les anciens symboliseraient donc dans leur intégralité les saints de l'Ancien Testament ainsi que l'Assemblée, associés à Christ dans la gloire. Christ est sur son trône sur le point de régner, et les saints sont vus avec lui dans son règne, car ils sont intronisés comme lui. Ils sont appelés anciens, ce qui implique une maturité spirituelle. Ils ne savent plus en partie. Ils ont l'intelligence de l'Esprit du ciel. Ils ne sont pas vus comme des esprits délogés, mais avec des corps de gloire vêtus de vêtements blancs, parlant de leur caractère sacerdotal. Exode 28, versets 39 à 43. Sur leur tête, des couronnes d'or parlent de leur caractère royal. Ils ont terminé leur pèlerinage terrestre au cours duquel ils ont souffert pour Christ. Ils sont maintenant couronnés pour régner avec Christ. Il suffit de retracer les allusions aux anciens tout au long de l'Apocalypse pour voir à quel point ils représentent vraiment des saints dans la gloire. Premièrement, les anciens se trouvent dans le ciel, associés au trône, avant le début des jugements. Ils ne sont pas sur la terre. Ils ne passent pas par les jugements. Et ils ne sont pas non plus sortis de la grande tribulation, comme la foule de saints vêtus de blanc décrite au chapitre 7. Mais ils sont au ciel avant que les jugements ne commencent. Deuxièmement, ils sont une compagnie de rachetés, comme nous le voyons au chapitre 8, versets 8 à 10. Troisièmement, ils sont une compagnie d'adorateurs, comme nous l'apprend Apocalypse 4, verset 10, 5, verset 14, 11, verset 16, 19, verset 4. Quatrièmement, ils sont une compagnie intelligente de saints, connaissant la pensée du ciel. Chapitre 5, verset 5 et chapitre 7, verset 13 à 17. Verset 5. Le caractère du trône est clairement indiqué par la déclaration solennelle que « du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix ». Les éclairs et les tonnerres accompagnent le jugement. Ce ne sont pas les symboles de la grâce et de la miséricorde. Aujourd'hui, la miséricorde jaillit d'un trône de grâce. Au jour millénaire, un fleuve d'eau apportant la bénédiction sur la terre coulera du trône de Dieu et de l'agneau. Dans l'intervalle solennel, entre la fin du jour de la grâce et le début de la gloire du royaume, le trône exécutera sur les nations le jugement symbolisé de façon appropriée par les éclairs et les tonnerres. De plus, l'apôtre voit sept lampes de feu brûlant devant le trône qui sont les sept esprits de Dieu. Assurément, nous avons ici une présentation symbolique de l'Esprit de Dieu dans sa plénitude, mais présenté en relation avec le feu du jugement, nous rappelant que, tant pour le monde que pour Israël, Dieu va ôter toute souillure par l'esprit de jugement et par l'esprit de consomption. Ésaïe 4, verset 4. Ceux qui aujourd'hui refusent celui qui parle en grâce du ciel trouveront dans le jour à venir que notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12, verset 29. Verset 6. Devant le trône se trouve une mer de verre semblable à du cristal. Devant le sanctuaire, au temps de Salomon, il y avait une mer d'eau pour l'usage des sacrificateurs. 1 Roi 7, versets 23 à 26. Ici, la mer est devenue du verre semblable à du cristal, symbole de la pureté figée et absolue du trône. Au ciel, rien de ce qui souille ne peut entrer. Versets 6 à 8. Enfin, l'apôtre voit au milieu du trône et alentour du trône quatre animaux, ou êtres vivants. Ils semblent symboliser ceux qui exécutent le gouvernement de Dieu. Ils sont au nombre de quatre, indiquant probablement la plénitude du gouvernement de Dieu s'écoulant dans toutes les parties du globe. Plein Dieu symboliserait la plénitude du discernement dans le gouvernement de Dieu auquel rien n'est caché. Le lion, le veau, le visage d'un homme et l'aigle volant signifieraient que le gouvernement de Dieu sera caractérisé par la force, la fermeté, l'intelligence et la rapidité d'administration. Il ne cesse de dire « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. » Il témoigne que le gouvernement de Dieu est saint, irrésistible en puissance et immuable dans son caractère. Les exécuteurs du gouvernement de Dieu deviendront l'occasion de gloire et d'action de grâce rendue à celui qui siège sur le trône au siècle des siècles. Versets 9 à 11. De plus, le gouvernement de Dieu suscite l'adoration des saints qui utilisent les couronnes que Christ leur a données pour lui reconnaître leur parfaite soumission. Ils jettent leurs couronnes devant le trône et reconnaissent que le Seigneur est digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car il est le Créateur de tout, et c'est par sa volonté que toutes choses sont et ont été créées. Le péché a entaché la belle création de sorte que toute la création soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Mais dans le ciel, les saints, ayant la pensée du Seigneur, peuvent discerner que tout le mal sera traité en jugement, en sorte que Dieu puisse à nouveau prendre plaisir dans sa création, comme autrefois, lorsque l'œuvre de la création fut terminée. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Genèse 1, verset 31. Ainsi, en prélude au jugement à venir, nous sommes transportés au ciel pour voir le trône du jugement inébranlé par la méchanceté des hommes, voir la gloire de celui qui est assis sur le trône, apprendre par l'arc-en-ciel que toutes les promesses de Dieu pour la bénédiction de la terre suivront les jugements du trône, apprendre que les saints des temps précédents et du temps actuel seront en sécurité dans le ciel avant l'exécution des jugements, apprendre que les jugements du trône seront exécutés dans la plénitude de l'Esprit selon la perfection du gouvernement de Dieu et qu'en conséquence, le Seigneur sera adoré et loué comme le Créateur, et voir que toute la création, purifiée de tout le mal, sera de nouveau pour son plaisir. Souvenons-nous que toutes ces choses sont écrites afin que nous y entrions dès maintenant par la foi, et soyons ainsi gardés dans un calme parfait alors que nous sommes encore dans un monde tourmenté.